Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Vous étiez sur les pistes cyclables la journée du meurtre de Valérie.
Mm-hmm. Oui.
Avez-vous entendu, vu quelque chose?
Non, c'est ça, malheureusement. Pourtant, j'ai passé, ma semble, fin d'être en année de cégep, au psychiatre numéro 15, puis c'est là, puis après, j'avais vu le fameux monsieur, là, du...
Le portrait robot, là, le suspect, le témoin important ouais, qu'on appelle.
Ouais, témoin ouais. Important, ouais.
Un peu moins de deux mois après la mort de Valérie Leblanc, la police de Gatineau a convoqué les médias à une grosse conférence de presse.
Il ne faut pas avoir peur de communiquer avec les policiers. Toute personne qui contacte le service de police de la ville de Gatineau.
C'est à ce moment-là qu'on a dévoilé un premier gros morceau de l'enquête, le portrait robot d'un témoin important.
Les témoins ont rapporté que l'homme en question avait un teint légèrement olive. Le teint a été qualifié de particulier, comme si par exemple, il n'était pas en bonne santé. Cet homme que nous recherchons avait un regard qualifié d'intimidant et d'inquiétant par les témoins. Il a suscité une crainte chez les gens qui l'ont croisé. L'agent Pierre Lantier vous fera part de d'autres informations que nous souhaitons partager.
Merci, Monsieur Lemay. Plusieurs personnes hésitent à contacter les policiers parce qu'ils sont inquiets de fournir une information qui serait erronée ou qui ferait perdre le temps aux policiers. À partir du moment où vous questionnez à savoir si vous devriez contacter les policiers ou non, cela est une indication que vous devez nous appeler. Maintenant, j'aimerais vous présenter Mme Julie Charon, la mère de Valérie Leblanc. Mme Charon tenait à vous adresser quelques mots et espère que son témoignage contribuera à faire progresser l'enquête et que son appel sera entendu par la population.
Je vous demande de prendre une minute pour regarder attentivement le portrait robot que les policiers viennent de rendre public. Regardez vos voisins, les amis de vos enfants, les cyclistes ou randonneurs que vous avez déjà croisés dans le parc de la Gatineau. Prenez 7 minutes pour déterminer si l'une de ces personnes ressemble à l'homme que vous voyez ici. Ma fille a perdu la vie. Les nôtres ont été chamboulés pour toujours. Je vous supplie de prendre le téléphone et de vous rendre à un poste de police.
Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc.
Ben, mon nom est Marc Leduc. Moi, je suis inspecteur chef à la division des enquêtes criminelles du service de police de la ville de Gatineau.
Ça fait maintenant plus de 7 ans que la division de Marc Leduc travaille sur le cas Valérie Leblanc. Monsieur Leduc est au service de police de la ville de Gatineau, le SPVG, depuis 33 ans. Il en a vu d'autres. Mais le meurtre de Valérie Leblanc demeure un des dossiers les plus importants de sa carrière.
C'était très préoccupant comme dossier, genre de dossier qu'on voit rarement ici à Gatineau. Si je peux vous donner des chiffres, là, on parle de 2104 informations qui sont rentrées dans ce dossier-là à travers les années. C'est sûr que dans les premiers moments de l'homicide, donc les premières semaines, les premiers mois, il y a beaucoup d'activités parce qu'on sait que c'est là qui est le meilleur temps pour aller chercher toutes les informations puis résoudre un crime. À travers les années, c'est certain qu'il faut maintenir une pression, il faut rappeler à la population que ce dossier-là est encore actif.
C'est vrai que la police doit constamment rappeler aux Gatinois que le dossier est actif. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'enquête avance pas. Daniel Soucy, la patronne de Valérie, et Yves Leblanc, son parrain, nous ont parlé du travail des policiers.
Est-ce que Valérie vous a parlé de quelque chose? Est-ce qu'elle vous a mentionné quoi que ce soit, un indice qui pourrait nous aider à faire avancer l'enquête. Pas en tout, toi. OK? Ils n'ont jamais interviewé personne de ma gang pour leur demander. Fallu que moi, en désespoir de cause, parce que j'étais en train d'étouffer, là, que je suis allée au bureau de police, puis je dis, moi, je veux parler à quelqu'un qui travaille sur l'enquête de Valérie. J'ai tapé sa table, je m'excuse. Ça m'a découragée, ça. C'est comme, puis à part de ça, quand tu veux des questions, puis je comprends l'enquête, là, ils veulent pas te répondre, c'est comme ils s'en fichent de toi. Je pense qu'ils comprennent pas c'est quoi le désarroi des gens, de la famille, des amis autour qui ont besoin de réponses. C'est comme t'as soif, t'es dans un désert, t'as besoin d'un verre d'eau, puis y a pas personne qui t'en donne.
Les polices tournent en rond. Là, ils tournent plus pantoute, ils sont assis, puis ils mangent des donuts, puis le dossier il est dans le tiroir, cold case. Fait que si vous voulez avoir du fun, là, allez au poste de police, puis demandez-leur pour le fun de vous donner des paperasses. La dernière fois qu'ils ont travaillé sur le dossier, de quand à quand, vous allez voir comment ils ont fourré le chien, puis ils vont vous trouver toutes sortes d'excuses, puis des petites histoires des pays d'en haut pour essayer de vous hypnotiser, pour vous endormir.
Peut-être que le mécontentement s'explique par le peu d'informations qu'a donné la police au fil des ans. À l'exception de la publication du portrait robot, on sait très peu de choses sur l'enquête. On a demandé au sergent Leduc pourquoi les corps policiers diffusaient si peu d'informations.
Bien, écoutez, il y a des éléments d'enquête où le suspect est le seul à connaître ces détails-là, le suspect et nous autres, la police, qui ont fait la scène de crime. Juste vous donner une idée, si il y a quelqu'un à un moment donné qu'on arrête ou qu'on suspecte, advenant, je vous donnerai un élément de preuve. Puis cet élément de preuve-là, bien, le suspect s'en est jamais débarrassé. Mais si je vous en parle, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être penser à s'en débarrasser. Puis c'est surtout stratégique, hein, c'est stratégique à l'enquête. Aussi, advenant que la personne arrive ici puis décide d'avouer son crime, de tout dire qu'est-ce qui s'est passé par rapport à qu'est-ce qu'il a fait. Mais là, à ce moment-là, on peut confirmer, voir si cette personne-là n'est pas juste venue ici parce que cette personne-là cherche l'attention ou qui a des problèmes de santé mentale.
Parmi les 2104 informations recueillies par le SPVG, il y a certaines pistes qui sont effectivement liées à des problèmes de santé mentale, comme l'a dit l'enquêteur Leduc. Quand on a consulté les archives médiatiques de 2011, on a lu que les policiers s'étaient rendus à l'hôpital en santé mentale Pierre Janet pour recueillir des informations concernant un patient admis la semaine du meurtre. On a réussi à en apprendre davantage sur cet élément de l'enquête qui n'avait jamais été révélé au public. C'est arrivé lors de notre rencontre avec Carol Connolly, l'ancienne présidente du syndicat des professeurs au Cégep de l'Outaouais.
Une des personnes qui était suspecte là-dedans, c'était le fils de la directrice générale qui travaillait là à l'époque et lui avait eu des démêlés. On sentait que, il y a un trouble là, du spectre de l'autisme, mettons ça de même, parce que je ne suis pas médecin psychiatre, là, je ne pourrais pas y donner savoir au juste, mais il était un peu harcelant à l'endroit de plusieurs jeunes profs, des jeunes femmes, et qui venaient me le dire. Là. Et puis moi, j'étais allée voir des gens de son service, là, et puis même éventuellement de la direction, pour dire qu'il y a un comportement hostile envers les jeunes femmes, mettons, qui veulent pas sortir avec lui ou veulent pas parler avec lui. Donc, ça a l'air que sa mère était au courant de ça et l'avait elle-même, qu'elle a dit plus tard, de dénoncer à la police en disant « c'est peut-être lui ». C'est sûr qu'il y avait il était spécial. Une journée, il était rentré absolument toutes les couleurs. Il avait pris une bataille dans un bar, puis c'était des histoires de drogue. Et puis, donc, sa mère, puis ce qu'on a su après, là, qui était directrice générale, avait elle-même dit « c'est peut-être lui ».
On n'a pas pu confirmer cette information dévoilée par Carol Connolly durant notre entrevue. On a quand même pris une chance et on a demandé à la principale intéressée de réagir à ses propos. On a appelé Marielle Poirier, qui était directrice générale du Cégep à l'époque du drame.
Bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Marielle Poirier?
Oui.
Oui, bonjour. Mon nom est Olivier Charbonneau. On fait un documentaire sur l'affaire Valérie Leblanc. Est-ce que vous êtes bien celle qui était directrice au Cégep à l'époque?
Oui.
Après une brève conversation téléphonique avec notre recherchiste, Mme Poirier a accepté de répondre à nos questions pour qu'on puisse avoir l'heure juste sur les événements impliquant son fils.
Mon fils a été interrogé comme beaucoup d'employés du cégep. Hein? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, il y a peut-être eu un petit peu de magouille quelque part. Là. J'avais informé le comité de gestion de crise parce que mon fils, cette journée-là, il a été hospitalisé d'abord à l'hôpital de Gatineau puis ensuite transféré à Pierre-Jeanet. Donc, il est certain que moi, je n'avais aucun doute par rapport à mon fils, parce que mon fils avait eu une crise psychotique durant le week-end et il n'a pas été une minute tout seul cette journée-là, parce que j'avais réussi à obtenir qu'il voie un psychiatre d'urgence. Et son rendez-vous était à 11h30 le matin. Moi, j'avais quitté un petit peu plus tard ce matin-là. J'étais en crise psychotique, donc je m'étais organisée avec son père pour que son père vienne le chercher à la maison à telle heure. Et son père l'a accompagné. Après ça, il l'a amené dîner. Puis après ça, il l'a retourné à la maison où mon conjoint était là. Et c'est quand je suis retournée à la maison le soir que j'ai finalement continué d'amener au centre 24-7. Et du centre 24-7, il l'a amené à l'hôpital de Gatineau. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui... Dans l'évaluation qui a été faite à l'hôpital de Gatineau, puis quand on a décidé de son transfert à Pierre-Jeanet, est-ce que l'événement, étant donné qu'il est en crise psychotique, a fait en sorte qu'il a eu un certain délire peut-être par rapport à ça, je ne sais pas.
Les policiers se sont ensuite rendus à l'hôpital Pierre-Jeanet et ils ont rapidement écarté cette hypothèse. Étant donné qu'on n'a pas réussi à obtenir plus d'informations sur les pistes des enquêteurs, je suis allé rencontrer un journaliste d'enquête qui nous a aidé à voir plus clair dans le dossier. Félix Séguin m'a accueilli dans les studios de TVA Nouvelles à Montréal.
Ça semble être un MO de prédateur, ce meurtre-là.
J'ai demandé à Félix pourquoi il pensait que c'était un MO ou modus operandi de prédateur.
Ben d'abord, c'est... je pense que... Les mutilations qui ont été infligées à Valérie Leblanc, d'après moi, ça implique quelqu'un qui, dans sa tête, là, il y a un sérieux problème. Et, tu sais, il y a deux possibilités que la police regarde toujours là-dedans. C'est-tu un crime qui a été commis par haine, tu sais, de la personne. Donc, est-ce que la personne connaissait son meurtrier, puis est-ce que ça a été commis par haine quand on voit que la personne a été mutilée, quand on voit qu'elle a eu des blessures là, qui relèvent pas juste d'une claque dans la face, tu sais. Fait que ça, je pense qu'on peut peut-être pas l'exclure, mais là, on est à l'autre bout du spectre, là. Je crois que le corps de Valérie Leblanc, puis je pense que vous savez, vous aussi, était extrêmement, extrêmement mutilé, brûlé. C'est, ça nous laisse dire que tu sais, dans le fond, là, ce que ça vient placer dans l'opinion populaire, c'est, il y a juste un vrai fou qui peut faire ça. Mais des fois, il y a juste un vrai fou qui peut faire ça. Quand on est devant un prédateur, c'est compliqué, là. Il y en a combien de prédateurs? Il y a combien de meurtres non résolus qui sont là, qui ont été commis par des prédateurs qui se feront jamais pogner? En tout cas, le principal constat présentement qui émane de sources policières, c'est qu'on est devant un MO de prédateur. Puis les chances diminuent énormément lorsqu'on est devant des MO comme ça, de faire des arrestations assez rapides. Tu sais, il peut arriver une situation où, le gars, il est en prison à Kingston, puis son co-détenu est là pour un crime X, puis finalement, il passe à confesse en disant « Hey, la fille, là, c'est moi qui l'ai tué. » Mais souvent, on peut se ramasser, c'est un coup de luck, tu sais. Mais souvent, c'est comme ça qu'on, qu'on va élucider certains crimes. Tu sais, c'est pas... T'as beau travailler pendant, comme enquêteur, pendant 20 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 2 ans, tu sais, tu peux pas le prévoir.
Depuis le début de l'enquête, il y a des membres de la famille de Valérie Leblanc qui demandent à ce que le dossier soit transféré de la police de Gatineau à la Sûreté du Québec. Les Leblanc ont pu compter sur l'appui du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui a cofondé l'Association des familles de personnes disparues ou assassinées. Le sénateur Boisvenu, dont une des filles a été assassinée, a été très présent après la mort de Valérie, lors des funérailles et des veillées à la chandelle. On l'a rencontré dans son bureau au Sénat, à quelques pas de Gatineau. Monsieur Boisvenu nous a parlé de la disparition de Valérie.
C'est des parents qui perdent un enfant. Puis c'est pas normal d'enterrer ces enfants. Donc, à chaque fois qu'il arrivait un meurtre d'un enfant d'une famille, j'avais comme l'obligation d'aller les voir, les prendre dans mes bras, puis leur dire, « et pas mort pour rien. Votre défi maintenant, c'est d'aller chercher dans cette mort-là quelque chose qui va vous grandir. » Puis je sais que dans son cas, où le corps a été brûlé, c'est encore pire, c'est épouvantable, là, t'es là. Fait que... de rencontrer les grands-parents, de rencontrer les frères, les sœurs, parce que c'est toute la famille qui est éprouvée, c'est pas juste la mère puis le père, là. C'est tout le noyau familial qui risque d'éclater, puis c'est ça que moi j'ai vécu dans beaucoup de familles, où que le noyau familial éclate complètement, puis qu'il y a d'autres victimes qui entourent celle qui est disparue. Donc, d'aller les voir, puis de leur dire, regardez, j'ai survécu à ça, vous pouvez aussi survivre à ça.
Le sénateur Boisvenu nous a ensuite parlé du combat qu'il mène depuis longtemps en ce qui concerne l'enquête policière.
J'ai deux sentiments, je veux dire, envers la police. Je milite depuis des années, moi, ou pour les cas non résolus, ce soit centralisé à SQ. Depuis des années. Parce qu'on forme une nation de 8 millions de personnes, puis on a des corps policiers comme si on serait 80 millions. Chaque corps policier a son petit royaume, ses petits enquêteurs. On n'a pas les moyens d'avoir ça au Québec. Au Québec, il faut centraliser le plus possible. Dans ce cas-là, comme dans le cas de certains cas provenchés, comme dans bien d'autres cas, de meurtre non résolu ou de disparition, on a besoin de profileurs, on a besoin de psychiatres, on a besoin de psychologues pour décrire le profil possible de l'individu. Puis ça, il n'y a pas un corps policier qui peut se permettre tout ça. Mais si on aurait un endroit unique, on aurait ces spécialistes-là, je pense qu'on travaillerait mieux au Québec.
Le journaliste d'enquête Félix Séguin nous avait aussi parlé de cette confrontation entre les polices municipales et la Sûreté du Québec.
Il y a une guerre entre les corps de police. Moi, je trouve ça vraiment plate, en fait, par... au jeu du qui pisse le plus loin, en fait, là, va essayer de garder son enquête le plus longtemps possible parce qu'elle pense qu'elle est capable de l'amener à terme. Mais la réalité, là, c'est que la SQ a des moyens que les corps de police municipaux ont pas, et quand ça tarde à être transféré, des fois, tu perds des précieux jours d'enquête qui se rapprochent du crime, qui sont, c'est pas moi qui vous l'apprends, les plus importants. Puis je comprends énormément des familles qui le demandent, ça, puis qui critiquent ça, que l'enquête a pas été transférée trop vite. D'ailleurs, dans les milieux policiers, ben ça, c'est une guerre de police aussi, mais tu sais, dans les milieux policiers, si tu parles à des sources à SQ, ils vont toujours te dire « Hey, il aurait dû nous transférer ça tout de suite, on l'aurait réglé, nous autres. » C'est un peu comme ça qu'ils parlent. Puis, t'as des policiers municipaux qui disent, hey, voyons, ils sont capables de faire ça, nous autres, là. Voyons, on n'a pas besoin de des verres avec leurs gros sabots. Fait que, tu sais, ces guéguerres-là ne se terminent jamais à l'avantage de la famille d'une victime.
Conscient des critiques qui ont été faites à l'égard du SPVG, l'enquêteur Leduc a répondu à nos questions sur le transfert du dossier.
Ce genre de dossier-là est un genre de dossier que notre service de police est habilité à faire. Pourquoi que le dossier n'a pas été transféré à la Sûreté du Québec? C'est parce que le dossier relève de notre niveau de service et on a les compétences pour le faire. Puis je suis entièrement confiant de toute mon équipe. D'ailleurs, la Sûreté du Québec nous a aussi aidés au niveau de l'analyse du dossier, parce qu'eux autres, ils ont une expérience accrue. Donc, à ce moment-là, j'avais cru important de faire participer la Sûreté du Québec, parce qu'il y avait eu l'expérience aussi dans Cédric Provencher au niveau de l'analyse. Alors, nous autres, moi, je voulais bénéficier de ça. Donc, la Sûreté du Québec sont venus avec des analystes pour faire des comparaisons avec toutes nos banques de données pour le dossier de Valérie Leblanc. Mais l'enquête appartient à Gatineau, puis va rester sous la responsabilité de Gatineau. Puis je peux vous assurer que le dossier est fait dans les règles de l'art, puis avec des enquêteurs d'expérience. Alors, il n'y a pas de doute que tout ce qui peut être fait va être fait, puis tout ce qui devait être fait est fait.
Le temps passe et le public n'a pas de nouvelles du dossier. Il y a quelques semaines, en août 2018, on a souligné un autre anniversaire du meurtre, le 7e. Il y a toujours quelques centaines de personnes qui partagent une photo sur les réseaux sociaux à la mémoire de Valérie. Une semaine après le 7e anniversaire, le chef du SPVG a pris sa retraite avec une grande déception.
Le chef de police, Mario Harel, va quitter son poste demain. Il passe à la retraite après 35 ans de service. Pierre Donnel a rencontré.
Si je vous prononce juste un nom, puis j'imagine ça va évoquer plein de souvenirs aux gens, Valérie Leblanc.
Ah, définitivement. C'est un homicide qui a marqué notre communauté, qui a marqué le service de police. Beaucoup d'attentes qu'on résout ce crime-là. Comme moi qui prends sa retraite cette semaine, j'ai des enquêteurs, j'ai des lieutenants-détectives qui ont pris leur retraite et qui auraient bien voulu résoudre ce dossier-là avant de quitter. Il y a quelqu'un quelque part qui sait quelque chose qui nous permettrait de dénouer cette enquête-là et on attend et on sollicite tout le temps cette personne-là de nous appeler pour qu'on puisse amener cette paix à la famille là, de résoudre ce dossier-là. Mais malheureusement, je quitte et ça n'a pas été fait.
J'ai essayé de parler à Mario Harel cette semaine. J'ai appelé à la police de Gatineau, puis ils m'ont dit qu'ils me donneraient des nouvelles en dedans de 48 heures. Là, ça va faire une semaine, puis je pense pas que Mario Harel veut vraiment nous rencontrer. Puis c'est plate parce que j'aurais aimé ça parler aux gens du SPVG, parce que dans le dernier épisode, il y a Jen Sear qui disait qu'il avait pris un accord avec la police quand elle avait retrouvé le corps. Je trouve ça vraiment bizarre, puis... T'sais, en plus, on a reçu une dizaine d'appels, on a reçu des messages de gens à Gatineau qui pensent avoir des infos importantes. Puis là, je leur dis, ben vous pouvez contacter la police. T'sais, ils sont toujours à la recherche d'éléments. Puis, ben ces gens-là me disent que la police leur donne pas de nouvelles à eux non plus.
Ouais, ben on dirait que toutes les personnes qui auraient vraiment une information, on dirait que c'est eux qui veulent pas nous parler. T'sais. Puis la police dit tout le temps que il y a une personne qui a l'information qui pourrait résoudre le crime. Mais c'est qui cette personne-là? T'sais? C'est qui puis c'est quoi cette information-là? C'est comme si c'était là qu'on était bloqué. Quand on a commencé cette série-là, on cherchait le plus de réponses possibles. Puis on en a trouvé beaucoup. T'sais. À un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions puis on a trouvé beaucoup de réponses. Mais on dirait que là, on finit les 5 épisodes. Puis que finalement, j'ai plus de questions que j'en avais au début.
Il y a une seule affaire qu'on souhaitait accomplir avec les 5 épisodes de notre série, et c'était de s'assurer que l'histoire de Valérie tombe pas dans l'oubli. Si on a pu faire la lumière sur certains éléments de l'enquête, ce sera au moins ça. Pour nous, même si on doit s'arrêter ici, l'histoire est pas finie pour autant. On continue à travailler là-dessus et on prend le temps de rencontrer tout le monde qui nous a signalé des informations. J'ai le goût de conclure sur ce qui m'a le plus marqué dans nos recherches. C'est de voir à quel point les gens ont encore de l'espoir que le cas soit résolu.
Moi, j'ai cette formidable impression que ce crime-là va être résolu parce que j'ai la certitude de ceux qui travaillent sur ce crime-là sont pas mal bons. Puis ils tournent toutes les pierres. Il y a beaucoup de chance à avoir, puis il faut que la chance tourne du côté de la police, puis pas du côté du méchant, tu sais.
Mon rôle principal dans ce dossier-là, c'est de m'assurer que ce dossier-là ne tombe pas en cold case.
Tu sais, dans 15-20 ans, là, puis je touche du bois que ce soit avant ça, là, ben dans 15-20 ans, là, qui c'est qui dira pas qu'il y a une affaire de technologie qu'on connaît pas encore qui va arriver, puis va dire « Hey, toi, buddy, man. » Mm-hmm. Valérie Leblanc, tu s'en es, tu sais, t'es rendu à 57 ans, là. Mm. Puis, tu sais, on parle, là. Peut-être que le gars, là, il nous écoute. C'est fou, moi, c'est ça qui me fait capoter, tu sais. Je sais, moi, je suis convaincu que ce gars-là m'a lu, qu'il connaît mon nom, qu'il connaît ma face, puis celle des autres journalistes.
Ça peut se résoudre.
Je pense qu'il faut garder espoir. Ça ramènera pas Valérie, mais au moins, ça se fera pas. Il n'y a pas personne d'autre qui va en souffrir. Là.
Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Steven Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert. L'habillage est signé Steven Boivin et Julien Morissette. Les sons d'archives utilisés sont une gracieuseté de RNC Média et Québécois. On tient à remercier les journalistes Sabrina Rivet de TVA Gatineau, Ottawa, Louis-Denis Hébachère du quotidien Le Droit et Éric Charron du 104.7 FM qui ont participé à la balado-diffusion. Merci également aux proches, aux amis et à la famille de Valérie qui ont accepté de collaborer. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info@transistor.media. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.